Émile Zola, Paris. Livre 1, chapitre 1. Ce matin-là, vers la fin de janvier, l'abbé Pierre Froment, qui avait une messe à dire au Sacré-Cœur de Montmartre, se retrouvait dès 8 heures sur la butte devant la basilique. Et avant d'entrer, un instant, il regarda Paris, dont la mer immense se déroulait à ses pieds. C'était, après 2 mois de froid terrible, de neige et de glace, un Paris noyé sous un dégel morne et frissonnant. Du vaste ciel, couleur de plomb, tombait le deuil d'une brume épaisse. Tout l'est de la ville, les quartiers de misère et de travail, semblait submergé dans des fumées roussâtres, où l'on devinait le souffle des chantiers et des usines. Tandis que vers l'ouest, vers les quartiers de richesse et de jouissance, la débâcle du brouillard s'éclairait, n'était plus qu'un voile fin, immobile de vapeur. On devinait à peine la ligne ronde de l'horizon. Le champ sans bornes des maisons apparaissait tel qu'un chaos de pierres, semé de mares stagnantes, qui emplissaient les creux d'une buée pâle, et sur lesquels se détachaient les crêtes des édifices et des rues hautes d'un noir de suie. Un Paris de mystère, voilé de nuées, comme enseveli sous la cendre de quelque désastre, disparu à demi déjà dans la souffrance et dans la honte de ce que son immensité cachait. Pierre regardait, maigre et sombre, vêtu de sa soutane mince, lorsque l'abbé Rose, qui semblait s'être abrité derrière un pilier du porche, pour le guetter, vint à sa rencontre. « Ah, c'est vous enfin, mon cher enfant. J'ai quelque chose à vous demander. » Il semblait gêné, inquiet. D'un regard méfiant, il s'assura que personne n'était là. Puis, comme si la solitude ne suffisait pas à le rassurer, il l'emmena à quelque distance, dans la bise glaciale qui soufflait, et qu'il paraissait ne pas sentir. Voici, c'est un pauvre homme dont on m'a parlé, un ancien ouvrier peintre, un vieillard de 70 ans, qui naturellement ne peut plus travailler, et qui est en train de mourir de faim dans un taudis de la rue des Saules. Alors, mon cher enfant, j'ai songé à vous, j'ai pensé que vous consentiriez à lui porter ces 3 francs de ma part, pour qu'il ait au moins du pain pendant quelques jours. « Mais pourquoi n'allez-vous pas lui faire votre aumône vous-même ?» De nouveau, l'abbé Rose s'inquiéta, s'effara, avec des regards peureux et confus. « oh non, je ne peux plus, moi, après tous les ennuis qui me sont arrivés. Vous savez qu'on me surveille, et qu'on me gronderait encore si l'on me surprenait à donner ainsi, sans bien savoir à qui je donne. Il est vrai que, pour avoir ces 3 francs, j'ai dû vendre quelque chose. Je vous en supplie, mon cher enfant, rendez-moi ce service. » Le cœur serré, Pierre considérait le bon prêtre tout blanc, avec sa grosse bouche de bonté, ses yeux clairs d'enfant, dans sa face ronde et souriante. Et l'histoire de cet amant de la pauvreté lui revenait en un flot d'amertume. La disgrâce où il était tombé, pour sa candeur sublime de saint homme charitable. Son petit rez-de-chaussée de la rue de Charonne, dont il faisait un asile, où il recueillait toutes les misères de la rue, avait fini par devenir une cause de scandale. On y abusait de sa naïveté, de son innocence, et des abominations se passaient chez lui, sans qu'il les soupçonnât. Des filles y allaient lorsqu'elles n'avaient pas trouvé d'homme pour les emmener. D'infâmes rendez-vous s'y donnaient, toute une promiscuité monstrueuse. Enfin, une belle nuit, la police y avait fait une descente pour y arrêter une fillette de 13 ans, accusée d'infanticide. Très ému, l'autorité diocésaine avait forcé l'abbé Rose à fermer son asile et l'avait déplacé de l'église Sainte-Marguerite en l'envoyant à Saint-Pierre-de-Montmartre, où il avait retrouvé sa place de vicaire. Ce n'était pas une disgrâce, mais un simple éloignement. On l'avait grondé, on le surveillait, comme il le disait lui-même. Et il était très honteux, très malheureux de ne pouvoir plus donner qu'en se cachant, tel qu'un prodigue écervelé qui rougit de ses fautes. Pierre prit les 3 francs. « Je vous promets, mon ami, de faire votre commission. Ah, de tout mon cœur. Allez-y, après votre messe, n'est-ce pas? Il s'appelle La Veuve. Il habite la rue des Saules, une maison avec une cour, avant d'arriver à la rue Marcadet. Vous trouverez bien. Et si vous étiez gentil, vous viendriez me rendre compte de votre visite. Ce soir, vers 5 heures, à la Madeleine, où j'irai entendre la conférence de Monseigneur Martha. Il a été si bon pour moi. N'y viendrez-vous pas l'entendre vous-même ? » Pierre répondit d'un geste évasif. Monseigneur Martha, évêque de Persépolis, très puissant à l'archevêché depuis qu'il s'était employé à décupler les souscriptions pour le Sacré-Cœur, un propagandiste vraiment génial, avait en effet soutenu l'abbé Rose. Et c'était lui qui avait obtenu qu'on le laissât à Paris en le replaçant à Saint-Pierre-de-Montmartre. « Je ne sais si je pourrai assister à la conférence, » dit Pierre. « En tout cas, j'irai sûrement vous y retrouver. » La bise soufflait. Un froid noir les pénétrait tous deux sur ce sommet désert, dans le brouillard qui changeait la grande ville en un océan de brume. Mais un pas se fit entendre, et l'abbé Rose, repris de méfiance, vit un homme passer, très grand, très fort, chaussé en voisin de galoche, et la tête nue, d'épais cheveux blancs coupés ras. « N'est-ce point votre frère ? » demanda le vieux prêtre. Pierre n'avait pas eu un mouvement. Il répondit d'une voix tranquille. « C'est mon frère Guillaume, en effet. Je l'ai retrouvé depuis que je viens parfois ici au Sacré-Cœur. Il possède là, tout près, une maison qu'il habite depuis plus de 20 ans, je crois. » Quand je le rencontre, nous nous serrons la main, mais je ne suis pas même allé chez lui. Ah, tout est bien mort entre nous. Rien ne nous est plus commun. Des mondes nous séparent. » Le sourire si tendre de l'abbé Rose reparut, et il eut un geste de la main, comme pour dire qu'il ne fallait jamais désespérer de l'amour. Guillaume Froment, un savant d'intelligence haute, un chimiste qui vivait à l'écart, en révolté, était maintenant son paroissien, et il devait rêver de le reconquérir à Dieu lorsqu'il passait près de la maison qu'il occupait avec ses 3 grands-fils, bourdonnantes de travail. « Mais, mon cher enfant, reprit-il, je vous tiens là, dans ce froid noir, et vous n'avez pas chaud. Allez dire votre messe. À ce soir, à la Madeleine. » Puis, suppliant, s'assurant de nouveau que personne ne les écoutait, il ajouta de son air d'enfant toujours en faute. « Et pas un mot à personne de ma petite commission. On dirait encore que je ne sais pas me conduire. » Pierre le regarda s'éloigner dans la direction de la rue Cortot, où le vieux prêtre habitait en rez-de-chaussée humide qu'un bout de jardin égayait. La cendre de désastre qui noyait Paris semblait s'épaissir sous les rafales de la bise glacée. Et il entra enfin dans la basilique, le cœur ravagé, débordant de l'amertume que venait d'y remuer cette histoire, cette banqueroute de la charité, l'ironie affreuse du saint homme puni pour avoir donné, se cachant pour donner toujours. Rien ne calma la cuisson de la blessure rouverte en lui, ni l'appétit tiède dans laquelle il pénétrait, ni la solennité muette du large et profond vaisseau, d'une nudité de pierre neuve, sans tableau, sans décoration d'aucune sorte, la nef à demi barrée par la charpente qui bouchait la coupole du dôme encore en construction. À 7 heures matinale, sous la lumière grise que laissaient tomber les hautes et minces baies, Des messes de supplication étaient déjà dites à plusieurs autels. Des cierges d'imploration brûlaient au fond de l'abside. Et il se hâta d'aller à la sacristie revêtir les vêtements sacrés pour dire sa messe à la chapelle de Saint-Vincent de Paul. Mais les souvenirs venaient d'être lâchés. Pierre n'était plus qu'à sa détresse. Tandis que, machinalement, il accomplissait les rites, faisait les gestes professionnels. Depuis son retour de Rome, depuis 3 ans, il vivait dans la pire angoisse où puisse tomber un homme. D'abord, pour retrouver la croyance perdue, il avait tenté une première expérience. Il était allé à Lourdes chercher la foi naïve de l'enfant qui s'agenouille et qui prie, la primitive foi des peuples jeunes, courbés sous la terreur de leur ignorance. Et il s'était révolté davantage devant la glorification de l'absurde, la déchéance du sens commun. Convaincu que le salut, la paix des hommes et des peuples d'aujourd'hui ne saurait être dans cet abandon puéril de la raison. Ensuite, repris du besoin d'aimer, tout en faisant la part intellectuelle de cette raison exigeante, il avait joué sa paix dernière dans une seconde expérience. Il était allé à Rome, voir si le catholicisme pouvait se renouveler, revenir à l'esprit du christianisme naissant, être la religion de la démocratie, la foi que le monde moderne, bouleversé, en danger de mort, attendait pour s'apaiser et vivre. Et il n'y avait trouvé que des décombres, que le tronc pourri d'un arbre incapable d'un nouveau printemps. Il n'y avait entendu que le craquement suprême du vieil édifice social, près de crouler. C'était alors, rendu au doute immense, à la négation totale, qu'il était revenu à Paris, rappelé par l'abbé Rose au nom de leurs pauvres pour s'oublier, pour s'immoler, pour croire en eux, puisque eux seuls restaient avec leurs effroyables souffrances. Et c'était alors qu'il s'était heurté depuis 3 ans à cet effondrement, cette banqueroute de la bonté elle-même, la charité dérisoire, la charité inutile et bafouée. Ces 3 années, Pierre venait de les vivre dans une tourmente sans cesse accrue, où son être entier avait fini par sombrer. Sa foi était morte, à jamais. Son espérance même était morte, d'utiliser la foi des foules pour le salut commun. Il niait tout. Il n'attendait plus que la catastrophe finale, inévitable, la révolte, le massacre, l'incendie, qui devait balayer un monde coupable et condamné. Prêtre sans croyance, veillant sur la croyance des autres, faisant chastement, honnêtement son métier, dans la tristesse hautaine de n'avoir pu renoncer à son intelligence, comme il avait renoncé à sa chair d'amoureux et à son rêve de sauveur des peuples. Il restait quand même debout, d'une grandeur solitaire et farouche. Et ce négateur désespéré, qui avait touché le fond du néant, gardait une attitude si haute et si grave, parfumée d'une bonté si pure, qu'il avait, dans sa paroisse de Neuilly, acquis la réputation d'un jeune saint aimé de Dieu, dont la prière obtenait des miracles. Il était la règle, il n'avait plus que le geste du prêtre, sans l'âme immortelle, tel qu'un sépulcre vide où ne restait pas même la cendre de l'espoir. Et des femmes douloureuses, des paroissiennes en larmes, l'adoraient, baisaient sa soutane. Et c'était une mère torturée, ayant un enfant au berceau en danger de mort, qui l'avait supplié de venir demander la guérison à Jésus. Certaine que Jésus la lui accorderait, dans ce sanctuaire de Montmartre, où flambait le prodige de son cœur incendié d'amour. Cependant, Pierre, revêtu des vêtements sacrés, avait gagné la chapelle de Saint-Vincent de Paul. Il y monta le degré de l'autel, il commença la messe. Et quand il se retourna, les mains élargies, pour bénir, il apparut avec sa face creusée, sa bouche de douceur amincie d'amertume, ses yeux de tendresse devenus noirs de souffrance. Ce n'était plus le jeune prêtre au visage brûlé de fièvre tendre allant à Lourdes, au visage illuminé d'apôtre partant pour Rome. Sa double hérédité en éternelle lutte, son père dont il tenait la tour inexpugnable de son front, sa mère qui lui avait donné ses lèvres altérées d'amour, continuait le combat. Toute la bataille humaine du sentiment et de la raison dans cette face aujourd'hui ravagée, où montait aux minutes d'oubli le chaos de la détresse intérieure. Les lèvres avouaient encore la soif inassouvie d'aimer, de se donner et de vivre, qu'il croyait bien ne devoir plus contenter jamais. Tandis que le front solide, la citadelle dont il souffrait, s'entêtait à ne point se rendre sous les assauts de l'erreur. Mais il se raidissait, cachait l'épouvante du vide où il se débattait, demeurait superbe, faisait les gestes, disait les paroles, souverainement. Et la mère qui était là, parmi les quelques femmes agenouillées, la mère qui attendait de lui une intercession suprême, qui le croyait en colloque avec Jésus pour le salut de son enfant, le voyait rayonner au travers de ses larmes, d'une beauté d'ange, messager des grâces divines. Après l'offertoire, lorsque Pierre découvrit le calice, il se prit en dédain. L'ébranlement était trop profond. Il pensait quand même à ces choses. Quel enfantillage dans ces deux expériences à Lourdes et à Rome! Quelle naïveté de pauvre être éperdu, dévoré du besoin d'aimer et de croire! S'être imaginé que la science actuelle, en lui, allait s'accommoder avec la foi de l'an 1000, et surtout avoir eu la sottise d'espérer que lui, petit prêtre, allait faire la leçon au pape, le déterminer à être un saint et à changer la face du monde. Il en était plein de honte, comme on avait dû rire de lui. Puis, c'était aussi son idée d'un schisme qui le faisait rougir. Il se revoyait à Rome, rêvant d'écrire un livre où il se séparerait violemment du catholicisme pour prêcher la religion nouvelle des démocraties, l'évangile épuré, humain et vivant. Quelle ridicule folie! Un schisme! Il avait connu à Paris un abbé de grand cœur et de grand esprit qui avait tenté de l'accomplir, ce fameux schisme annoncé, attendu. Ah, le pauvre homme, la triste et dérisoire besogne au milieu de l'incrédulité universelle, de l'indifférence glacée des uns, des moqueries et des injures des autres. Si Luther revenait de nos jours, il finirait à un cinquième des Batignolles, oublié et mourant de faim. Un schisme ne peut réussir dans un peuple qui ne croit plus, qui s'est désintéressé de l'Église pour mettre ailleurs son espoir. C'était tout le catholicisme, c'était même tout le christianisme qui allait être emporté, car l'Évangile, en dehors de quelques maximes morales, n'était plus un code social possible. Et cette certitude augmentait son tourment. Les jours où la soutane pesait plus lourde à ses épaules, où il finissait par se mépriser, de célébrer ainsi le mystère divin de cette messe, qui était devenu pour lui le geste d'une religion morte. Pierre, qui avait empli le calice à demi du vin des burettes, se lava les mains et aperçut de nouveau la mère, avec son visage d'ardente supplication. Alors, il pensa que c'était pour elle, dans une pensée charitable d'homme lié par un serment, qu'il était resté prêtre. Prêtre sans croyance, nourrissant du pain de l'illusion la croyance des autres. Mais cette héroïque attitude, ce devoir hautain où il s'enfermait, n'allait plus pour lui sans une angoisse croissante. La simple probité ne lui commandait-elle pas de jeter la soutane, de retourner parmi les hommes? Sa situation fausse à certaines heures, l'emplissaient du dégoût de son héroïsme inutile. Et il se demandait de nouveau s'il n'était pas lâche et dangereux de laisser vivre les foules dans leurs superstitions. Certes, le mensonge d'un dieu de justice et de vigilance, d'un paradis futur où étaient rachetées toutes les souffrances d'ici-bas, avait longtemps semblé nécessaire aux misères des pauvres hommes. Mais quelle leurre! Quelle exploitation tyrannique des peuples! Et combien il serait plus viril d'opérer les peuples brutalement en leur donnant le courage de vivre la vie réelle, même dans les larmes! Déjà, s'ils se détournaient du christianisme, n'était-ce pas qu'ils avaient le besoin d'un idéal plus humain, d'une religion de santé et de joie, qui ne serait pas une religion de la mort? Le jour où l'idée de charité croulerait, le christianisme croulerait avec elle, car il était bâti sur la charité divine, corrigeant l'injustice fatale, ouvrant les récompenses futures à qui aurait souffert en cette vie. Et elle croulait. Les pauvres n'y croyaient plus, se fâchaient devant ce paradis menteur dont la promesse avait si longtemps entretenu leur patience, exigeaient qu'on ne les renvoyât pas au lendemain du tombeau pour le règlement de leur part de bonheur. Un cri de justice montait de toutes les lèvres. La justice sur cette terre, la justice pour ceux qui ont faim, que l'aumône est lasse de secourir depuis 18 siècles d'évangile et qui n'ont toujours pas de pain à manger. Lorsque, les coudes sur la table de l'autel, Pierre eut vidé le calice, après y avoir brisé l'hostie, il se sentit tomber à une détresse plus grande. Ainsi donc, c'était une troisième expérience qui commençait pour lui, ce combat suprême de la justice contre la charité, où allait se débattre son cœur et sa raison, dans ce grand pari, si voilé de cendres, si plein d'un terrible inconnu. Le besoin du divin luttait encore en lui contre l'intelligence dominatrice. Comment contenterait-on jamais, chez les foules, la soif du mystère? En dehors de l'élite, la science suffirait-elle pour apaiser le désir, bercer la souffrance, rassasier le rêve? Et qu'allait-il devenir lui-même dans la banqueroute de cette charité qui, seule depuis 3 ans, le tenait debout, en occupant toutes ses heures, en lui donnant l'illusion de se dévouer, d'être utile aux autres? D'un coup, la terre manquait sous ses pieds. Il n'entendait plus que le cri du peuple, du grand muet demandant justice, grondant et menaçant de reprendre sa part, qu'on détenait par la force et la ruse. Plus rien ne pouvait retarder la catastrophe inévitable, la guerre fratricide des classes qui emporterait le vieux monde condamné à disparaître sous l'amas de ses crimes. À chaque heure, il en attendait l'effondrement. Paris, noyé de sang, Paris, en flammes, dans une tristesse affreuse. Et son horreur de la violence le glaçait. Il ne savait où prendre la croyance nouvelle qui devait conjurer le péril, ayant bien conscience que le problème social et religieux ne faisait qu'un. Était seul en question dans l'effroyable et quotidien labeur de Paris. Mais trop troublé lui-même, trop mis à l'écart par la prêtrise, trop déchiré de doute et d'impuissance, pour dire encore où était la vérité, la santé, la vie. Être sain, vivre, contenter enfin sa raison et son cœur dans la paix, dans la besogne certaine, simplement honnête, que l'homme est venu accomplir sur la terre. La messe était dite, et Pierre descendait de l'autel, quand la mère, en larmes, près de laquelle il passait, saisit de ses mains tremblantes un coin de la chasuble et la baisa éperdument, comme on baise la relique du saint dont on attend le salut. Elle le remerciait du miracle qu'il avait dû faire, certaine de retrouver son enfant guéri. Il fut profondément ému de cet amour, de cette foi brûlante, malgré la brusque détresse qu'il éprouva plus affreuse à n'être pas le ministre souverain que cette femme croyait, capable d'obtenir un sursis de la mort. Mais il la renvoyait consolée, raffermie. Et ce fut d'un vœu ardent qu'il supplia la force ignorée et consciente, s'il en existait une, de venir en aide à la pauvre créature. Puis, lorsqu'il se fut dévêtu dans la sacristie et qu'il se retrouva dehors, devant la basilique, fouetté par la bise d'hiver, un frisson mortel le reprit et le glaça, tandis qu'il regardait, au travers de la brume, si l'ouragan de colère et de justice n'avait pas balayé Paris. La catastrophe attendue, qui devait l'engloutir un matin, en ne laissant sous le ciel de plomb que le marais empesté de ses décombres.